ma pompa. Marmury wielki dzwon, nie ma pompa. Purpura góra tron, nie ma pompa. Pampary czary nie ma, o nie, je, je, je. Nie ma pompa. Doroczny balu wód, nie ma pompa. Salony Hollywood, nie ma pompa. Grand Vals i Rewia Mutu, smy cud, je, je, je. Panie i panowie gorsetów, więc trafy i hrabiowie zalotce, szampan i jałowiec słowiczy trel. Ja uwielbiam wielką skalę i La Scala i bal. Nie ma pompa. Dekolty a la carte, nie ma pompa. Małęka po żart, nie ma pompa. Szalone usta i nocy czar, nocy czar.
Lipu, tipu, tipu, taj, tymi tu tulipany, daj kormorany, tymi, 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 daj. Lipu, tipu, tipu, taj, tymi tu tulipany, daj nerufany, tymi, 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 daj. Ach, na co ci to kompoty wasz?
A ja pragnę choćby inkognito pokazać szyk,
wszędzie być, lach, być, wszędzie być, a być bum, 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 bum.
Kurna chata owinięta w dym.
Dans le cadre du quatrième colloque, la ménagère, une travailleuse du Collège du Travail, nous avons rencontré Jacqueline Heinen, sociologue, chercheuse au CNRS à Paris. Jacqueline Heinen avait fait une conférence lors de ce colloque, mesures préférentielles à l'égard des travailleuses, mères de famille, en Pologne et en RDA, hier et aujourd'hui. Nous avons profité de sa présence ici à Genève pour lui poser des questions sur la situation des femmes en Pologne, en RDA et sur le mouvement des femmes qui existe très fortement en RDA. Jacqueline, tu t'es donc penchée sur la situation des femmes dans les pays de l'Est, plus particulièrement sur la situation des femmes en RDA et puis en Pologne. Tu connais bien ces deux pays. Alors, une question sur la Pologne. Comment est-ce que tu expliques qu'en Pologne, il n'y a pas eu l'émergence d'un mouvement fort ou autonome ou indépendant de femmes, alors que dans ce pays, l'apparition de larges mouvements d'opposition, des mouvements de sociaux, s'est fait déjà il y a plus de 10 ans?
C'est une question que je me suis posée très précisément quand j'ai commencé à travailler il y a 4-5 ans. En vue d'une thèse que j'ai rédigée depuis lors sur la situation des femmes en Pologne, parce que c'est une question qui m'était venue après avoir participé assez activement sur le terrain à tout le mouvement de Solidarność en 80-81, et où de manière constante je me disais où sont les femmes, c'est-à-dire qu'à la fois je les voyais parce que je voyais qu'elles étaient militantes à la base, et en même temps non seulement elles n'étaient pas dans les instances, mais leurs problèmes spécifiques, leurs revendications spécifiques n'étaient pas du tout présentes et elles les formulaient pas comme telle. Mais je crois qu'avant de répondre sur la Pologne en particulier, il faut peut-être donner un certain nombre d'éléments qui ne sont pas propres à la Pologne, mais qui ont trait à l'ensemble des pays de l'Est et qui expliquent un certain nombre de choses dans plusieurs de ces pays. Parce que, par exemple, si demain en URSS on avait un mouvement social massif des travailleurs, on en a d'ailleurs déjà dans certaines régions, les Pays-Baltes et autres, et qui affirme des revendications, que ce soit sur des questions nationales ou sur des questions propres à la classe ouvrière, je doute qu'on ait immédiatement un mouvement large de femmes qui se constitue et qu'on aura des obstacles qui seront très similaires à ceux qu'on a connus en Pologne. Alors je crois que pour la plupart de ces pays, et je ferai une exception un peu pour la RDA que j'expliquerai après, il faut revenir sur un petit peu l'histoire de ce qui s'est mis en place depuis 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale. À savoir que, vu de l'extérieur, on a des pays où, d'une part, on l'a beaucoup dit, puis c'est pas faux d'ailleurs, il y a une égalité formelle qui a été adoptée au niveau des constitutions, des lois, des arrêtés, etc. En même temps qu'il y avait une mise au travail des femmes massive, beaucoup plus vite que ça n'était le cas dans les pays de l'Ouest. C'est ce qui fait l'intérêt de l'étude dans ces pays, parce qu'on peut avoir une lecture comme ça sur un terme beaucoup plus long. Enfin, au moins, bon, 70, plus de 70 pour l'URSS et un demi-siècle pour les autres pays. Et c'est intéressant par rapport au débat qu'on a, nous, à l'Ouest, sur quelles mesures il faut adopter, quelles implications ça va avoir pour les femmes, etc. Bon, donc, il y a cette égalité formelle qui a été adoptée presque immédiatement au niveau des constitutions. Deuxièmement, il y a cette soi-disant égalité sur le plan professionnel, parce que les femmes travaillent professionnellement presque autant que les hommes, voire autant que les hommes en RDA ou en URSS. Et puis en même temps, il y a les discriminations qu'on sait sur le plan salarial, il y a la ségrégation professionnelle, les femmes qui restent dans certaines branches, les hommes dans d'autres, avec toutes les différences que ça entraîne sur le plan social, de rémunération, etc. Et puis il y a également, c'est pas négatif non plus, il faut le dire, des mesures de socialisation qui ont été prises dans la plupart de ces pays en ce qui concerne la prise en charge des enfants, en ce qui concerne certaines tâches domestiques. Alors c'est plus ou moins développé, les cantines, certains services par rapport à la vie quotidienne, ou en tout cas qui était un objectif affirmé dans les années 40-50 et qu'on a tendu de mettre en place un petit peu. Et puis on n'est pas beaucoup arrivé. Le problème, c'est que dans aucun de ces pays, il y a eu au départ une quelconque remise en cause de ce qu'on peut appeler les rapports patriarcaux, à savoir du type de dépendance subjective des femmes vis-à-vis des hommes qui s'exercent dans le cadre de la famille, dans la société, des rapports de violence, des rapports d'oppression, et que tout ce qui a trait à la reproduction, tout ce qui a trait au travail domestique, à la famille, etc., on l'a systématiquement assigné aux femmes sans se poser aucune question. Et que s'il est vrai que, bon, au tout départ, dans les discours, sur la base de ce qui existait un petit peu dans les textes marxistes, il y avait une idée qu'il fallait aller vers une émancipation du travail ménager, dans la mesure où ces sociétés, pour des raisons économiques, bon, leur incapacité à mettre en place le système qu'elles prétendaient mettre en place, ne sont pas arrivées à faire les choix qui étaient prévus, par exemple en termes de construction de crèches ou de construction des divers services en question, quand il a fallu décider où allaient les priorités économiques, comme d'ailleurs dans le capitalisme quand il y a des crises qui se dessinent à l'horizon, c'est toujours sur ces questions-là qu'on a commencé par raboter en premier. Et de fait, dans les années 70, dans la plupart de ces pays, il y a eu un constat d'échec sur ces problèmes. Et c'est ce qui a donné lieu à ces législations spécifiques dites en faveur des femmes, où on a décidé d'attribuer des congés maternels, des congés de travail domestique, une réduction de travail pour les mères, du temps de travail pour les mères, des choses comme ça, et qu'on a toujours présenté comme étant quelque chose en faveur des femmes. Alors c'est vrai que sur le moment, ça allégeait un petit peu le cumul extraordinaire auquel elles devaient faire face, mais de fait, ça a eu des implications que moi je juge vraiment très rétrograde dans les représentations des hommes et des femmes du point de vue de leur situation en général. Et aujourd'hui, dans la plupart de ces pays, avant d'en venir à la Pologne, on constate vraiment une sorte de coupure de génération entre les femmes qui ont 40-50 ans, on constate ça dans les enquêtes sociologiques, sur la manière dont elles se représentent leur passé, leur avenir, ce qu'aurait pu être l'avenir de leur fille, et puis les représentations des jeunes femmes. Et chez les jeunes femmes, et c'est vrai en Pologne, mais c'est aussi vrai en Hongrie et en URSS, là-dessus il y a eu des enquêtes récentes qui disent toute la même chose, il y a vraiment une aspiration à se replier sur la famille, à se consacrer exclusivement aux enfants. Il y a vraiment très souvent un discours du type « si mon mari gagne assez, j'arrêterai immédiatement de travailler parce qu'en fait, ma place est à la maison ». Une chose qu'on a tendance à écouter moins, même si on l'écoute encore, dans les pays occidentaux. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal. Alors ça, c'est un cadre général qui n'est pas valide seulement pour la Pologne. Et je crois qu'il faut le souligner. Maintenant, c'est vrai qu'en Pologne, il y a un facteur supplémentaire, c'est le poids de l'Église catholique, qui avait une influence, disons, relativement importante au lendemain de la guerre, mais qui a surtout gagné beaucoup d'influence dans les années 70, précisément, au moment où on a mis ces législations en place. Et il y a une conjonction qui s'est faite entre les orientations très matérielles mises en place par l'État et puis le discours des églises sur la place de la femme est au foyer, parce que, par exemple, l'Église catholique, en, en Pologne a fait des discours tous les dimanches depuis plus d'une décennie sur l'idée le temps partiel ce serait quand même mieux que le temps plein, mais enfin l'objectif c'est que la femme s'arrête de travailler.
Il faut savoir qu'en Pologne 90% de personnes sont catholiques ou bien.
Exactement, ou se disent catholiques, oui. Ou bon, elles sont plus ou moins pratiquantes, mais enfin se reconnaissent comme catholiques. Ça a été une manière depuis très longtemps aussi de se situer dans l'opposition au pouvoir. Donc à l'évidence, il y a une conjonction de facteurs qui en Pologne fait que ça a été très très fort. Et je crois que au moment de l'histoire de Solidarność, ça explique pas mal de choses, parce qu'à la fois socialement les femmes étaient partie prenante du mouvement, c'était pas la première fois d'ailleurs, hein, elles avaient été déjà très présentes dans les grèves de 70, là, de 70, c'est elles qui avaient fait virer Guirec sur la question des prix. Bon, si tu te rappelles, il y avait eu ces grèves contre l'augmentation des prix. N'empêche que, bon, Gomulka est tombé à cause de ça. Guirec est venu au pouvoir. Et les travailleurs masculins des chantiers navals de la Baltique, ils ont accepté de faire confiance à Guirec en disant, bon, ben, on va bien voir. Et puis, c'est les femmes de Łódź qui sont entrées en grève et qui ont dit, pas de ça, c'est pas possible, on peut pas. Et qui ont exigé que les prix soient rapportés. Bon, donc, elles ont participé activement et à certains moments, elles ont fait des décisions dans l'histoire du mouvement ouvrier polonais. Et dans l'histoire de 80-81, là aussi, il y a des moments où elles ont fait des décisions. Je veux dire, les marches de la faim à l'été 81, ces manifestations de rue que Solidarność avait proscrit dans l'idée, il ne faut pas provoquer le pouvoir, ça peut être dangereux, on ne veut pas répéter ce qui s'est passé en 70, en 76, etc. C'est elles qui les ont décidées et spontanément contre la direction de Solidarność et qui ont influé de ce fait sur les débats politiques du congrès de septembre 81, sur les problèmes de l'autogestion, qu'est-ce qu'il fallait faire sur les questions économiques. C'était indirect, mais moi je crois que ça a été quand même important. Donc elles étaient bien là dans ce mouvement social. Mais leurs problèmes spécifiques en tant que femmes, sur tout ce qui a trait précisément aux rapports patriarcaux, bon, elles ne l'ont pas exprimé, elles n'ont pas pu l'exprimer, parce que je crois que le poids des idées traditionnelles, relayées par l'Église, relayées par Solidarność, qui incarnait tout ce qui était ce à quoi on pouvait adhérer à l'époque contre le pouvoir ONI, ceci avant l'état de guerre, je crois que c'est un facteur d'explication premier. Et qui fait que, par exemple, les quelques féministes qui sont organisées, puisqu'il y a eu un ou deux petits groupes qui sont organisés, hein, surtout à Varsovie, en 80-81, elles ont été récusées par les militantes ouvrières de Solidarność. Moi, j'en ai souvent parlé avec ces femmes-là. Et c'était très difficile d'affirmer pendant cette période qu'on était féministe. Si on ne voulait pas se faire vraiment fermer la porte au nez, couper court à la discussion. Donc, je veux dire, ça n'explique pas tout, mais je pense que c'est des éléments importants. Mais je crois qu'il y a un autre facteur qui est vraiment très important en Pologne aujourd'hui, et en URSS et en Hongrie aussi, c'est la question de la crise économique, du degré de retour en arrière qui existe dans ces pays.
Alors justement, concrètement, disons, dis-nous un peu la situation en Pologne, la situation à laquelle est confrontée les femmes en Pologne. Parce qu'elle est catastrophique, disons, la situation économique.
Oui, moi, je l'estime absolument catastrophique dans le sens suivant. Quand on dit travail domestique aujourd'hui à l'Ouest, on a tout un débat sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on constate que le travail domestique ne diminue pas en temps parce qu'il a tendance à s'élargir, à se complexifier, que le problème des loisirs des gamins vient donner du travail en plus à la mère, etc. Mais enfin, il y a quand même des tâches élémentaires de survie par rapport à l'individu, au collectif qu'est la famille, qui se sont allégées de fait. Hein, qu'il s'agisse de la lessive, de la vaisselle, d'une série de choses que tu peux acheter, même à moitié pré-cuit, congelé. Il y a 10 ans, c'était encore très cher à l'Ouest. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Tu vas à la Migros, en France, dans les chaînes de supermarchés, même le travailleur qui n'a pas un salaire très élevé, il peut en partie faire face à ce type de dépenses. Bon, ben, en Pologne, très concrètement, et ça c'est une différence, c'est vraiment un retour en arrière par rapport aux années 70, aujourd'hui, les femmes, elles sont confrontées à la nécessité de faire de nouveau des conserves, comme en faisaient nos grands-mères, parce qu'elles ne savent pas quand il y aura quelque chose à manger qui ne soit pas trop cher sur le marché ou dans les magasins d'État. Et quand il y a, ben, il faut mettre en conserve, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Elles sont confrontées à la nécessité de refaire de la couture, comme elles avaient cessé d'en faire, parce qu'il existait pas mal de services relativement bon marché pour faire ça. Bon, elles ne peuvent plus se le payer parce que les prix ont augmenté, et puis beaucoup de ces services sont, ou bien ont disparu, ou bien sont privatisés et coûtent beaucoup plus cher. Elles sont confrontées au phénomène des queues, qu'on ne connaît pas, nous. On fait un petit peu de queue à la caisse du supermarché, mais enfin bon, on ne fait pas des attentes de 1 heure, 2 heures dans la rue, y compris l'hiver, par le froid, avec les gamins, pour ne pas savoir au bout de la queue s'il y aura quelque chose, je veux dire. Ça, on ne fait pas. Hein. Bon, elles sont confrontées à une complexité, une bureaucratisation de la vie qui fait que tout geste administratif nécessite de perdre un temps infini. Bon, dans ce système qui vraiment a échoué complètement du point de vue d'une organisation un petit peu humaine de la vie quotidienne.
Et là, aussi le logement, bien le logement alors, qui fait qu'on vit avec les autres, donc on a ça, envie de se retirer dans son propre logement.
C'est absolument terrible, parce que nous on parle de chambre à soi pour les femmes, mais je veux dire, en Pologne, ça ne se pose vraiment pas à ce niveau-là en ce moment. Aujourd'hui, on dit que l'attente pour avoir un appartement pour un jeune couple, il est de 30 ans, ou peut-être de 50 à Varsovie, enfin c'est des trucs qui sont tellement fous. Les gens font, à l'heure actuelle, des plans d'épargne pour leurs petits-enfants, souvent. Mais je ne plaisante pas. Ils disent, de toute façon, ça, pour nous, c'est exclu que ça serve. Pour mes enfants, c'est vraiment pas sûr. Mais au moins, ça servira pour les petits-enfants. Mais en tout cas, ça ne peut pas servir avant que les enfants soient déjà largement adultes. Parmi ceux qui n'ont pas des possibilités d'accès privilégiées parce qu'ils ont des dollars, parce que
ça existe aussi. Différence sociale. Ou bien c'est ça
oui,
aussi.
Oui, il y a une différenciation sociale qui se creuse beaucoup dans le cadre de la crise actuelle. Même déjà, avant qu'on commence à rendre actif, à concrétiser un certain nombre de mesures allant dans le sens du marché, il y avait déjà une différenciation sociale très forte. Dans une situation comme ça, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en Pologne. Tu as une augmentation de l'économie dite parallèle, de l'économie seconde, qui est absolument faramineuse. Et ça, c'est un facteur de clivages sociaux qui est terrible. L'économie parallèle, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est le travail au noir que tu prends en plus. Les activités semi-de-vol que tu as dans ton entreprise. C'est en partie le travail que tu voles à ton patron, à ton directeur d'entreprise en allant faire tes courses pendant ton boulot. Mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus informel. C'est le troc qui se fait entre les individus. Ça ne ressort pas seulement de l'économie de marché. C'est quelque chose d'assez complexe. Mais en tout état de cause, c'est un facteur de perte de temps absolument extraordinaire. Hein. Je veux dire, par exemple, moi, je suis à Varsovie, je me promène parce qu'il faut que j'aille chercher des bouquins dans les librairies. Alors déjà, il n'y en a pas, je perds beaucoup de temps. Et chaque fois que je vois un kiosque où on vend des journaux et des bouteilles de shampoing et des allumettes, je m'arrête parce qu'il faut absolument que je vérifie s'il n'y a pas des allumettes parce que mes copains n'ont plus d'allumettes. Et mes copains, eux, ils vont me filer un paquet de papier toilette ou Dieu sait quoi que je peux absolument pas me procurer quand je passe pendant 6 semaines et que je viens faire mes enquêtes ou bien une côtelette à laquelle j'ai pas droit parce que j'ai pas de coupon. Ça c'est ma propre situation et je suis très privilégiée. Les Polonais entre eux ont ce type d'activité, de préoccupation, et c'est valable d'ailleurs aussi pour les hommes et pas seulement pour les femmes, qui bouffent un temps absolument extraordinaire. Alors tu situes les femmes dans ce contexte-là, tu te dis qu'elles travaillent pour la plupart d'entre elles professionnellement, avec des horaires qui quelquefois sont moins lourd que ceux des hommes quand elles sont employées et que précisément elles peuvent un peu s'échapper, mais quand elles sont à la production, c'est pas vrai du tout. Elles ont des horaires lourds et des conditions de travail qui sont très lourdes. En plus de ça, elles se tapent des tâches domestiques qui sont beaucoup plus lourdes qu'à l'ouest. Elles sont dans des conditions d'habitation qui sont impossibles parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la tente, ça veut dire très concrètement que ben non, la plupart du temps, tu as 3 générations ensemble. Et donc, tu as des gens entassés et que habiter à 6 dans 2 pièces, c'est quelque chose d'assez commun dans les grandes villes polonaises. Alors après, à partir de là, tu te représentes qu'est-ce que c'est les conditions quotidiennes. Et tu te dis que ça, eh ben, ça pèse aussi sur les représentations des femmes. Et puis qu'il y a des choses aussi, des problèmes qu'il est difficile de se poser dans certaines conditions. Parce qu'on essaye de résoudre des questions plus élémentaires. Hein.
Alors, contrairement à la RDA, donc en Pologne, contrairement en Pologne, en RDA, donc il y a eu l'émergence d'un mouvement de femmes très radical, hein, oui, qui critique très fortement ce système patriarcat, même socialiste, donc il pose aussi des revendications. Alors, parle-nous un peu de ce mouvement de femmes en RDA.
Alors d'abord, avant de parler en tant que tel, je voudrais dire que bon, il a surpris un certain nombre de personnes, y compris moi d'ailleurs, peut-être à tort, parce que moi, j'avais pas réfléchi assez à la situation spécifique en RDA, et j'avais un petit peu tendance à mettre un signe égal entre les divers pays de l'Est. Peut-être j'aurais des surprises demain en criant un ours, hein, je sais pas. Bon, mais je crois qu'il y a des éléments quand même qu'on peut expliquer dans le surgissement de ce mouvement. D'une part, il y a déjà la situation matérielle. Parce qu'il faut le dire ici, parce qu'on parle beaucoup de la crise en RDA, elle est réelle. Elle est réelle par rapport à ce que la RDA a connu il y a 5 ans, voire il y a 10 ans. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 10 ans, la RDA, en termes de, revenu national, niveau de productivité, etc., se situait à un niveau sans commune mesure avec un pays comme la Pologne ou comme l'URSS, hein, par tête d'habitant. Et que même s'il y a une crise, l'écart a subsisté. Et quand on parle de la crise économique en RDA, qui est tout à fait réelle, et je ne veux pas la minimiser, il y a une crise écologique aussi, une crise de l'environnement qui est absolument terrible, ça n'a rien de commun avec le type de conditions d'existence au quotidien que je viens de décrire pour la Pologne. Et en RDA, s'il est vrai que la vie est passablement, je ne sais pas, les femmes disent souvent militarisées, elles vont loin dans les termes employés, pas toujours très gaies, que les villes, certaines villes sont très détruites, malgré tout, les conditions d'existence quotidienne en termes d'approvisionnement, en termes de logement, en termes de recours à des services, et notamment des services qui pèsent par rapport à la prise en charge des enfants ou du quotidien, des cantines par exemple, c'est quelque chose qui est, développé et qui rend la vie à peu près possible quand même. Moi j'ai vu beaucoup d'Allemands de l'Est, là cet automne, qui se plaignaient terriblement des queues qu'ils devaient faire. Mais c'était des queues qui n'étaient pas tellement différentes de celles que nous on connaît à l'Ouest quand on va le samedi au supermarché et qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas c'était vrai à Berlin et à Rostock. Maintenant c'est vrai, je ne suis pas allée à Halle, je ne suis pas allée à Dresde, à Leipzig, dans les villes où c'est plus difficile. Donc je ne veux pas généraliser. Mais malgré tout, les crèches existent, les enfants, les adultes mangent à la cantine à midi. Le soir, dans la tradition allemande, ils mangent leur tartines avec des salades, etc. Mais c'est pas vrai qu'il y a un temps de cuisine énorme qui est consacré. Les services du type couture, cordonnier, etc. laissent beaucoup à désirer. Ça s'est beaucoup détérioré depuis quelque temps. Mais enfin, ça existe quand même. Et puis quand tu vas dans les quartiers populaires, en général, tu trouves entre un carré de blocs de maison, la crèche, la maternelle, l'école, la poste, le supermarché et divers services indispensables, la pharmacie, etc., plus les consultations médicales.
Donc des femmes ont eu les acquis.
Donc il y a des acquis qui sont extrêmement importants. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Bon, deuxièmement, il y a des aspects culturels que moi, je n'avais pas assez considérés et qui, je crois, ont joué beaucoup. Notamment le fait que, de par la pression qu'a exercé le modèle de la RFA, en bien ou en mal, mais pas seulement en mal, il y a un certain nombre d'exigences qui se sont fait jour dans la tête des individus et des femmes en particulier. Quand tu regardes ce qu'est le contenu de la littérature féminine de femmes, de romancières femmes, d'essayistes femmes sur les 10 années écoulées, c'est absolument remarquable. Tu as une description dite, prononcée des rapports patriarcaux dans ce pays qui n'existe dans nul autre pays de l'Est. Et qui rend compte justement de la pesanteur des rapports individuels, de l'absence de démocratie, mais de la situation spécifique des femmes dans ce cadre, de discrimination, etc. Donc ce que j'ai dit au départ sur les discriminations des femmes dans les sociétés de l'Est, c'est valide en RDA. Mais ça s'inscrit, un, dans un contexte matériel qui est plus favorable, en tout cas qu'en Pologne, et deux, dans un contexte culturel où il y a eu, en partie de par l'influence de RFA, mais aussi de par l'histoire du mouvement ouvrier en RDA, des traces qui ont subsisté, qui ont perduré, qui sont passées et qui ont donné des choses très différentes. Je crois, je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que le fait que Clara Zetkin était allemande à la tête du mouvement féministe du début du XXe siècle en Allemagne, avec les acquis que ça représentait pour le mouvement ouvrier international et allemand, c'est pas indifférent dans ce qui peut subsister dans les mémoires aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai vu des articles, par exemple, critiques en RDA cet automne par rapport au test de Bebel, au test de Zetkin, qui serait très difficile de trouver dans les autres pays de l'Est, parce que c'est, bon, rejeté automatiquement, parce que ça fait partie du marxisme, de ce qu'on veut plus, etc. On va même plus jusqu'au débat là-dessus. Donc, je crois que cet ancrage dans l'histoire d'un mouvement ouvrier, elle est importante. Et puis, l'Église qui a joué un rôle important dans les mouvements sociaux de contestation, en particulier par rapport, oui, l'Église luthérienne par rapport au mouvement pour la paix. Bon, d'une part, elle n'a pas l'impact de l'Église catholique en Pologne, mais surtout, elle n'a pas du tout des thèses analogues en ce qui concerne les femmes. Je ne crois pas, je ne sais pas, si elle a des thèses qu'on peut dire progressistes, je ne crois pas vraiment. Mais enfin, disons que ça ne va pas du tout dans le sens de conforter des discriminations matérielles, sociales, qui par ailleurs se faisaient jour dans la société. Et donc, tout ça, je crois, a beaucoup joué pour laisser de l'espace au surgissement de ce mouvement. Et alors, ce que j'ai trouvé fantastique dans ce mouvement, qui m'a passionnée, donc j'aimerais bien qu'il continue à me passionner, s'il arrive à continuer à exister, ça j'en suis pas tout à fait sûre, c'est qu'il a eu une capacité d'assimiler et d'intégrer les principaux acquis des mouvements féministes occidentaux en prenant le meilleur et en laissant un petit peu de côté le pire, que j'ai trouvé extraordinaire.
Alors, parle-moi un peu des revendications. Moi aussi, je suis fascinée par ces femmes de la main des revendications.
Alors, du point de vue des revendications, d'abord, déjà, il y avait le point de vue politique et social qu'elles ont adopté. Et qui avait, bon, visiblement, bon, un point de vue déterminé de gauche, de défense des acquis sociaux, de conscience qu'il existait des choses en RDA qu'il ne fallait pas brader par rapport à la situation en RFA ou dans d'autres pays de l'Est, sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir des éléments de socialisation, de crèche, etc., de logement et tout ça.
Travail, et donc, travail pour les femmes, ça,
oui,
c'est très important.
Oui, du droit au travail, de l'existence, dans le cas de la RDA par exemple, le congé parental, qui n'est pas tout à fait parental, mais enfin, qui est plutôt pour les femmes, malgré tout, il est rétribué à 90%, si je me rappelle bien. Alors que dans tous les autres pays, de l'Est et de l'Ouest, c'est des allocations de misère qui sont à 40 ou 50% du salaire des femmes. Alors on voit ce que ça veut dire par rapport à un salaire moyen. Bon, donc c'est une situation très différente. Elles considèrent ça comme des acquis. Mmh. Et elles l'ont énoncé comme tel. Et donc, politiquement, elles se sont prononcées contre une perspective de réunification ultra rapide qui voudrait dire précisément la suppression de ces acquis. Donc ça, c'était déjà très intéressant comme point de vue. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de ces revendications, disons, de maintien des acquis, elles ont énoncé des revendications qui avaient une dimension qualitative qu'on a rarement connue de cette manière-là, y compris à l'Ouest. Par exemple, sur les appartements, elles ont revendiqué, pas des appartements, parce qu'elles en ont. Alors, elles ont revendiqué des appartements de qualité et qui soient organisés, conçus en fonction des besoins des femmes, des mères, etc., de leurs habitants, bon, qui montraient où elles se situaient par rapport à ce qui peut être débattu très concrètement dans d'autres pays de l'Est et dans beaucoup de pays de l'Ouest. Ou bien par rapport aux crèches, elles ont demandé, non pas des crèches, mais des crèches alternatives. Des crèches alternatives où les rapports pédagogiques s'établissent différemment, non seulement entre les éducateurs et les enfants, mais où le rapport avec les parents, la liberté de va-et-vient, la flexibilité des horaires, la souplesse de l'organisation permettent pédagogiquement un épanouissement des enfants qui soit bien meilleur. Troisièmement, elles ont mis en avant des propositions d'organisation des femmes qui ont repris tout ce qu'il y avait, ce que moi je juge de plus avancé pour permettre aux femmes de réfléchir et d'agir entre elles, que ce soit sur l'existence de centres de femmes, de centres de femmes battues en tenant compte du problème des violences, en le dénonçant très fortement, que ce soit à travers la nécessité d'une presse féministe, elles ont même été jusqu'à dire qu'elles voulaient une presse féministe quotidienne, l'exigence d'avoir un secrétariat à la condition féminine qui s'occupe des problèmes de législation, et qui, notamment, prennent en compte leur critique de ce qu'elles ont appelé, si joliment, la multipolitique des années 70, à savoir cette politique qui, soi-disant, en faveur des femmes, s'adressait prioritairement aux femmes pour qu'elles assument le travail ménager, en dénonçant ça et en mettant en avant ce concept de Vaterschaft et Elternschaft, c'est-à-dire de paternité et de parentalité, pour lutter par l'idée aussi, par l'image contre cette attribution du travail familial et du travail domestique aux femmes. Et puis, du point de vue de l'organisation des femmes, elles ont aussi formulé des choses assez précises en ce qui concerne la représentation des femmes dans les entreprises, avec des délégués dans les entreprises. Donc, moi, j'estime qu'elles ont vraiment essayé de prendre les problèmes par les divers aspects sociaux, culturels, affectifs, d'organisation politique, qui est assez remarquable. Elles se sont beaucoup battues sur la question des quotas. Alors bon, on a toujours des grands débats, il y a des points de vue très variés, mais enfin, elles ont dit des quotas partout à 50%, il faut que les femmes soient là si on veut qu'elles s'expriment, ce qui me paraît quelque chose d'absolument élémentaire. Et elles n'en ont pas fait un objectif dont elles pensaient que c'était une solution, mais que c'était une mesure minimum par laquelle il fallait passer pour qu'on puisse commencer à discuter. Et elles le disaient comme ça. Et enfin, elles ont intégré une dimension qui, pour moi, m'apparaît vraiment très importante dans ces pays, c'est qu'elles ont attaché beaucoup d'importance aux femmes qui sont les plus défavorisées, à savoir les mères célibataires, à savoir les femmes âgées, leurs mères, qui sont ces femmes qui ont contribué prioritairement à reconstruire le pays dans une situation où il y avait un très gros déficit de main-d'œuvre masculine, et d'hommes en général, qui ont vraiment beaucoup donné, et puis qui, parce que les discriminations ont été maintenues sur le plan salarial, se retrouvent avec des pensions de misère. Et dans leur discours, c'était très, très prégnant. Et c'était fascinant pour moi qui venais de Pologne. Parce qu'en Pologne, c'est tout l'inverse qui se passe, au sens où les femmes jeunes, dont j'ai souligné qu'elles avaient une tendance au repli sur la cellule familiale, elles ont un discours d'une dureté et d'un critique vis-à-vis de leur mère, auquel elles reprochent justement d'en avoir trop fait pour rien dans un objectif qui était désespéré. Et donc, bon, elles en tirent la conclusion à leur manière. Et ça, en Allemagne de l'Est, c'était vraiment quelque chose d'inversé dans le discours, de dire, bon, elles sont discriminées aujourd'hui, on les prend avec nous, sous notre aile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes âgées qui ont écrit à ce mouvement et qui se sont joints à elles. Donc moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est cette combinaison et cette maturité dans la capacité à situer à la fois dans une perspective politique déterminée que je juge, moi, juste, et dont je pouvais espérer qu'elle donnerait quelque chose, ce qu'on appelle la troisième voie, à savoir ni le communisme, ni le capitalisme, mais quelque chose qui préserve les acquis et puis qui modifie les rapports sociaux et humains ou inhumains qui existaient dans cette société. Et puis, en même temps, une intégration vraiment du problème des rapports interpersonnels et justement de l'existence de rapports patriarcaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort et de très intéressant.
Maintenant que donc les féministes donc est-allemandes étaient donc contre une annexion précipitée avec la RFA, elles disaient même qu'en fait c'était une annexion.
Oui.
Anschluss, elles ont vraiment pris le mot de 38. Mais voilà, actuellement, donc, la majorité des électeurs en RDA a voté, disons, en faveur de cette unification. Qu'est-ce que tu penses que maintenant les femmes en RDA vont faire par rapport à cette échéance que tout le monde attend, hein, réunifions-nous, soyons tous des Allemands. La collaboration avec les féministes de RFA va-t-elle s'accélérer comment tu vois un peu ces perspectives qui vont s'ouvrir ou se fermer?
J'ai un petit peu de peine à dire parce que je n'ai pas été ces dernières semaines ou même ces derniers mois depuis Noël en RDA. Et puis les choses ont bougé si vite que bon, je me situe déjà dans une autre histoire quasiment. Moi, j'étais présente au moment des événements, du bouleversement, des manifestations qui précédaient la chute du mur, etc. Et donc... je peux peut-être dire des bêtises. Je sais que certaines collègues, copines que j'ai là-bas ont un point de vue assez pessimiste après les élections du 18 mars. Parce que moi, j'ai lu un texte qu'elles avaient sorti en tant que mouvement des femmes, qui donc s'est constitué en décembre, qui a mis sur pied une association, une coordination au niveau national, qui a...